Something's not right here.
Rocking.com.
Welcome.
Enjoy.
Une voix pour vous exprimer à travers la planète. Octobre 2005. Une équipe a pour mission de devenir, avec votre aide, la station de radio par excellence résistante du 21e siècle. Ensemble, construisons cette forteresse pour combattre la convergence des médias, gouvernements corrompus et justice lâche. Soulevons-nous contre les fanatiques. Unissons nos forces pour vaincre les obstacles de la vie. Rocket.com vous donne des armes efficaces et utiles pour communiquer entre vous et avec nous. Skype. Logiciel de communication gratuit à travers la planète Rocket.com. Pour réagir et informer. MSN live@rocket.com pour transmettre vos messages de manière interactive.
They got me pinned down here.
Courriel live@rocket.com. Document confidentiel, anonymat garanti. Web Radio World. Le forum de Rocket.com pour réagir, poser des articles.
Go.
Mettre des liens sur le forum. Mettre des liens audio et autres, afin qu'on ne soit plus jamais tenu dans l'ignorance. Voilà la mission, votre information, la planète, Rocket.com, se parle. Vous êtes la prochaine génération de résistants. Soyons unis, partenaires de Rocket.com, LibertyVox.com, prêts à rester debout.
Das Universum gehört uns. Aerobern ist dein Auftrag, Rockkick.com.
You're listening to Rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wacha!
8 à 12, 14 à 18.
The Punisher.
Chris, this is Port, Mini Simon.
Il est 11h16 minutes, pas mal de retard, oui, c'est le cas de le dire, on y avait. On s'était trompé d'heure aussi. Je crois que c'est notre faute. Monsieur Pince qui est au bout du fil. Déjà 17h. Première des choses, je vous repose la question. Vous allez bien? J'imagine que après ces longues vacances, vous avez pu profiter un peu du soleil, j'espère.
Oui, tout à fait. Je vais très bien et j'ai bien profité effectivement des quelques jours, enfin des quelques temps de vacances que j'ai pris dans la Méditerranée.
Oh, 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 la Méditerranée, endroit justement.
Je n'étais pas à Malte.
Monsieur Pince, les choses ont énormément bougé depuis la dernière fois qu'on s'était parlé via téléphone et. Je crois que bon, Nicolas Sarkozy a débarqué sur le tapis rouge, 23e président maintenant de la France. Fillon qu'il a nommé comme premier ministre, et que dire justement qu'il a fait de l'œil à la gauche, faut le faire. C'est assez spécial de voir un Sarkozy agir ainsi, vous ne croyez pas?
Ben c'est-à-dire, vous savez, il a remarquablement manœuvré, vous vous en souvenez, je vous avais dit lors de son discours de Caen, en Normandie,
oui,
qu'il avait fait la percée d'Avranches comme Pacon. Il a, pendant la campagne présidentielle, il a siphonné toutes les voix de Le Pen, en tenant un discours qui reprenait une grande partie des thèmes, disons, des gens excédés, des patriotes, etc. Et puis, une fois élu, alors, il prend avec lui des ministres de gauche, ce qui va lui permettre, au moment des législatives, de siphonner toutes les voix de Bayrou. C'est-à-dire qu'il a fait une double manœuvre, qui va lui assurer évidemment une majorité exceptionnelle à l'Assemblée nationale. Alors par contre, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur les mots. Je crois qu'il ne faut pas parler dans son cas
okay.
D'ouverture. Parce qu'une ouverture, ça se fait sur des accords politiques, sur des négociations. Là, il n'y a pas eu d'accord politique ou de négociation. Il y a simplement des personnalités de gauche, et des notables comme Kouchner, qui ont purement et simplement rallié Nicolas Sarkozy, pour des raisons, disons, je dirais presque fromagères, on peut dire.
Fromagères.
Oui, absolument. Et finalement, il a fait une très bonne opération, et même l'électorat, disons, de droite, qui avait voté pour lui, qui aurait pu se sentir trahi, en quelque sorte, en disant, comment se fait-il, on a voté pour lui, et pour autant, il s'ouvre à la gauche. Non, l'électorat de droite a fait la même interprétation que celle que je viens de vous faire, puisque cet électorat est à 70-90% même, des fois, tout à fait d'accord avec la manœuvre qui a été menée par Sarkozy. Il a été jusqu'ici, il faut le reconnaître, un remarquable tacticien, et on peut dire un remarquable stratège électoral.
Stratège électoral, mais peut-être pas pour sa femme, par contre, qui n'a pas voté pour Sarkozy.
Pour qui? Pour vous me parler de...
Comment s'appelle-t-elle, donc, déjà? Cécilia Sarkozy. Oui. Scandale, j'aurais aimé vous poser la question, parce que, bon, vous n'étiez pas présent, mais je vous la pose maintenant. Cécilia Sarkozy, qui n'a pas voté au deuxième tour. C'est spécial, ça.
Oui, c'est spécial, la gauche a essayé de monter ça en épingle.
Oui, exactement, Monsieur Pain, c'est
ça. Vous savez, on ne peut pas en tirer grand-chose, elle peut très bien avoir été indisposée, elle peut très bien... Bon, il y a différentes raisons qui peuvent intervenir là. C'est quelque chose, là aussi, qui a laissé les électeurs complètement indifférents. Complètement indifférent. De même, on avait dit que son escapade à Malte ou sa séance au Phuket's avec les patrons du CAC 40 aurait un effet négatif. Bah, finalement, non. Il n'y a eu aucun. Si on en croit les sondages qui sont faits sur l'image de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, eh bien, ces sondages sont actuellement extrêmement positifs.
Okay.
Extrêmement positifs, il faut le dire. Et dans toutes les tranches, disons, de l'électorat, y compris d'ailleurs au sein de l'électorat du Front National qui avait voté pour lui.
Parce que là, j'ai encore une autre nouvelle qui vient de me tomber sous les yeux concernant les fameuses franchises médicales proposées par Nicolas Sarkozy. Et Erich conteste tout de suite. Là. Est-ce que vous croyez que tout au long du mandat de Nicolas Sarkozy, ça va s'avérer à être que ça son chemin de croix, si je peux me permettre de dire, des gens qui vont toujours contester ce qu'il va proposer?
Ah, écoutez, là, jusqu'ici, il a très bien manœuvré sur le plan électoral. Maintenant, une fois que la campagne sera terminée,
voilà,
c'est-à-dire le 14 et le 18 juin, une fois qu'il faudra passer aux actes et réellement s'engager sur les actes, c'est là qu'à mon avis, des difficultés énormes l'attendent. Ces difficultés vont venir non seulement des gens qui l'ont rallié, comme Martin Hirsch ou d'autres, et sans doute sur la pointe des pieds, donc il y aura vraisemblablement à ce moment-là des défections. Il y aura aussi des gens qui vont le freiner au sein de sa propre majorité, parce qu'on voit bien que quand même il joue un rôle de one-man show et que beaucoup de ministres ne sont pas du tout sur la même tendance et la même volonté de changement que lui, que certains ministres essayent d'adoucir les angles, comme ils l'ont toujours fait par le passé. Je pense à Juppé, je pense à Valérie Pécresse, je pense à Darcos, etc. Et donc, il y a pour lui un très grand risque de se trouver très vite, immobilisé. Non seulement par ses alliés politiques circonstanciels, non seulement par ses amis politiques, mais aussi par le réseau constitutionnel. C'est bien beau de dire « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire tout en même temps ».
Exactement.
Et si les textes sont retoqués par le Conseil constitutionnel, par exemple, même sur un texte aussi anodin que l'extension de la défiscalisation sur les heures supplémentaires, guerre, ça pose déjà un problème, ça peut poser un problème constitutionnel. Les peines planchers, par exemple, aussi peuvent poser un problème constitutionnel. Ce qui est terrible, vous comprenez, en France, c'est que ce système a généré et a voté, sans même s'en rendre compte, tellement de traités, tellement de lois, que les gens se trouvent, même s'ils veulent faire des réformes importantes, même s'ils ont la volonté de le faire, vont très vite se trouver ficelés par toutes les tonnes séries d'empêchements venant de textes qu'ils ont laissés passer par le passé d'une manière irréfléchie. Sans parler des traités internationaux. On dit on va, par exemple, limiter le regroupement familial. Très bien, mais bonjour les recours devant la Cour européenne de justice, etc., par rapport à des traités qui ont été signés par la France ou des conventions qui ont été signées par la France. Donc il y a un risque, là, important de blocage. Et puis alors, il y a l'autre risque de blocage, c'est celui qui viendra des syndicats, de la rue, qui pour le moment font plutôt le dos rond, mais qui vont très vite se réveiller et qui risquent à ce moment-là de nouveau de créer des problèmes conduisant à l'immobilisme.
Parce qu'on parle énormément.
Là, ce sera très grave.
Monsieur Pince, on parle énormément de déficit à gauche et à droite, c'est incroyable. Là. Déjà, Nicolas Sarkozy marche sur des œufs incroyables.
Oui, il marche sur des œufs. Remarquez, ses ministres surtout marchent sur des œufs. Lui annonce des mesures qu'il veut faire toutes ensemble en même temps. Bon, je crois qu'il faut attendre les actes. On va voir à ce moment-là comment les choses vont se passer. Il y a un point aussi que j'avais évoqué avec vous précédemment,
oui,
c'est-à-dire le risque d'émeutes. Et il y en a eu, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu, mais elles ont été tout de suite très circonscrites par les forces de l'ordre, et pour une fois avec des sanctions extrêmement lourdes, c'est-à-dire des 3 à 6 mois de prison ferme, avec comparution immédiate, etc. Mais il y a eu dans les villes toute une série de contestataires qui se sont manifestés, et qui finalement, devant le peu de succès de leur manœuvre, et surtout les risques pris, ça s'est arrêté. Mais il y a toujours, évidemment, des attaques avec des voiture bélier contre des lycées dans la région toulousaine, il y a toujours un sentiment de fureur dans les banlieues, et tout ça peut exploser à tout moment. Donc, pour le moment, on est un peu dans l'expectative, parce que, sur le plan de la tactique électorale, on peut dire « bravo l'artiste », hein, ça c'est incontestable, il a remarquablement manœuvré, mais quand il va falloir aller réellement au charbon, là, ça risque d'être autre chose. Vous comprenez, les manœuvres électorales, c'est très bien, ce sont des mots. Alors, c'est un peu comme si vous êtes sur une mer ouverte, vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre, c'est un peu comme aux échecs, vous passez d'un bord à l'autre, ça n'a aucune conséquence, puisque ce sont que des mots. Mais très vite, lorsque vous êtes engagé dans l'action, ben, à ce moment-là, c'est un peu, le bateau peut se retrouver prisonnier par les glaces. Et il ne s'agira plus ni d'aller à droite, ni d'aller à gauche, on se trouve bloqué, complètement bloqué, et à ce moment-là, ça peut donner de la vigueur à tous les contestataires qui sont actuellement sous le choc des résultats des élections, et puis surtout ça peut enregistrer tout un courant de déception par rapport aux gens qui ont fondé et qui fondent actuellement, les sondages le montrent, qui fondent beaucoup d'espoir sur son action.
Monsieur Pince, vous êtes du bon côté, façon de parler, pour m'expliquer clairement qui est Fillon exactement, ce premier ministre que Sarkozy a nommé, parce que j'aimerais connaître votre point de vue sur cet individu. Est-ce que on a dit que c'est un dauphin de la part des médias de votre côté, mais dauphin de quoi exactement, et quel genre d'individu c'est? J'ai de la misère à vraiment trouver, parce que j'ai fait des recherches de mon côté et j'ai trouvé en vain quoi que ce soit sur lui.
Ce n'est pas un énarque, n'est-ce pas? C'est un homme qui fait tout à fait partie du système, qui a commencé il y a 30 ans sa carrière politique comme attaché parlementaire dans la Sarthe, qui est un département qui vote traditionnellement très à droite. Il a donc commencé sa carrière politique comme attaché parlementaire de Joël Leteul, qui était un des barons du gaullisme, du temps du général de Gaulle. Et puis à la mort de Joël Leteul, il a repris créer la circonscription. Il a suivi son parcours en occupant différents postes ministériels. C'est véritablement quelqu'un du système qui a la réputation d'être intelligent, d'être mesuré, mais c'est pas sur lui qu'on peut attendre beaucoup d'impulsions. En fait, c'est un homme assez effacé. Vous n'avez pas trouvé grand-chose sur lui.
Non, ça c'est ça.
Pas, parce que il n'y a pas grand-chose à en dire, en vérité.
Exactement.
C'est un homme très effacé, et il a été choisi parce qu'il sera un excellent directeur de cabinet. Mais il faut bien comprendre quand même qu'avec le mandat présidentiel ramené à 5 ans, on est maintenant avec un président qui est à la fois Premier ministre, qui remplace tous les ministres au pied de la lettre. Enfin, écoutez, ça a été quand même extraordinaire. Dès le lendemain de son intronisation, il s'est précipité à Toulouse pour l'Airbus. Il était accompagné, non pas du Premier ministre, parce que ça devrait être, n'est-ce pas, laissé au Premier ministre. Non, il y a été tout seul, accompagné du ministre de l'Économie. Et le ministre de l'Économie n'a pas dit un mot. Et c'est M. Sarkozy qui a péroré, comme Napoléon, en disant « je vais faire ci, je vais faire ça, etc. » On va voir ce qu'on va voir. Et au fond, il remplace le Premier ministre, il sera le Premier ministre de facto, il remplace les ministres, et on a surtout au niveau du gouvernement une sorte de casting, hein, qui est destiné, au fond, pour les élections législatives. Maintenant, c'est quand même un risque qu'il prend là. Vous savez, être, quand on commande, il faut savoir, d'une part, déléguer, et puis aussi prendre ses distances, pour ne pas être en premier rang. Hein. Tous les présidents de la République jusqu'à présent avaient la sagesse de laisser le Premier ministre en première ligne, et les ministres aussi, pour que quand ça va mal, quand il y a un gros problème, on peut dire, bon, ben, c'est la faute du Premier ministre, c'est un incapable, et on le renvoie. Mais là, dans la mesure où le Premier ministre ne sera qu'un directeur de cabinet, il est clair que le président s'expose en première ligne, et ça suscite de l'inquiétude. Ça peut susciter de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer compte tenu des hypothèques et des menaces que nous avons évoquées. Il faut savoir aussi qu'en matière politique, ça change très vite, vous le savez. Souvenez-vous, en 93, la gauche avait connu une défaite historique. Mais alors, aux législatives, ils avaient été complètement ratiboisés. Bon, en 97, dissolution, ils obtiennent la majorité à l'absolu à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'en France, les gens sont assez versatiles. Et que dès que ça va bloquer, il peut y avoir soit un retour vers l'électorat, vers la gauche, soit un retour vers le Front National, et dans une hypothèse ou l'autre, si le président s'est mis en première ligne, bien évidemment, c'est lui qui supporte tout le poids de la réprobation. Il est important, je crois, à mon avis, pour un président de rester dans un rôle d'arbitre. Alors, c'est très difficile parce qu'on a une constitution qui est complètement, disons, bancale, hein, qui est entre les deux. C'est pas la constitution américaine, c'est pas un régime parlementaire, c'est quelque chose, bon, qui jusqu'à présent fonctionnait d'une manière plus ou moins bizarroïde, avec des cohabitations, mais avec un président arbitre, mais quand même décisionnaire sur les choses importantes, et puis un premier ministre qui s'occupait des affaires du quotidien. Bon, maintenant, avec le raccourcissement du mandat présidentiel, sur 5 ans, on a un président qui est plus actif que le président des États-Unis, mais sans avoir non plus les mêmes contre-pouvoirs, ni les mêmes appuis.
Est-ce que la question mérite d'être répondue, M. Pince? J'ai un auditeur qui m'envoie ceci. Est-ce que Fillon... Le Premier ministre, bien sûr. Est-ce que Fillon est un franc-maçon?
Ah, écoutez, alors ça...
Je ne sais pas, écoutez, je n'en sais rien.
Okay. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre, je n'en sais strictement rien.
Mais est-ce que c'est une question qui mérite d'être soulevée? Voyez-vous une utilité à cette question?
Ben, moi, je vois aucune utilité à cette. Je vois pas d'utilité à cette question, parce qu'il y a certainement, d'autres francs-maçons dans le gouvernement. Enfin, j'en ai pas en tête. Là, je le vois pas. Mais vous savez, les gens qui sont francs-maçons, ils passent pas leur vie dans la franc-maçonnerie. Hein. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un est-ce qu'il n'y a pas un protestant parmi les membres du gouvernement, ou est-ce qu'il n'y a pas un catholique parmi les membres du gouvernement. Hein. Vous savez, ce genre de question, à mon avis, c'est un peu superficiel.
Bon, merci. je tenais à ce que vous me disiez ceci parce que moi non plus je ne voyais pas grand chose là-dedans. Alors j'aimerais rappeler, est-ce que il y a un auditeur qui m'envoie ceci concernant Nicolas Sarkozy. Il se souvient, c'est incroyable avec Sarkozy, c'est surtout le fait qu'il a su faire oublier qu'il était sortant. Il prône la rupture tout en faisant oublier qu'il a été ministre de l'Intérieur et maître du gouvernement Chirac, et membre du gouvernement Chirac, c'est ça? Il a réussi à faire oublier ça, c'est spécial ça.
Ah, c'est assez remarquable de sa part. Il a réussi effectivement à faire oublier qu'il était sortant, à faire oublier qu'il avait été pendant 30 ans dans toutes les combinaisons politiques, ministérielles et autres. Il a réussi, il a réussi un tour de force dans ce domaine-là, c'est certain. Mais vous savez, c'est une comparaison que je prends souvent avec mon ami Claude Reichmann. Au fond, il nous apparaît un peu, Sarkozy, comme une sorte de Gorbatchev. C'est-à-dire qu'il prend des mesures qui vont contre le système, ou il annonce des mesures qui vont contre le système qu'il a jusqu'à présent défendu, comme le faisait Gorbatchev, qui disait « on va faire ceci, on va faire cela », alors que Gorbatchev venait lui aussi de toute la nomenclatura communiste depuis l'origine. Et puis on a vu ce qui s'est passé, la maison s'est écroulée sur Gorbatchev. Et là, c'est la même chose qui risque de se passer, parce que Sarkozy prend des initiatives qui sont complètement à l'encontre de ce qu'il était politiquement correct de penser. Prenons par exemple le ministère de l'immigration et de l'intégration et de l'identité nationale qui a été créé. Ce ministère, c'est quelque chose qui avait été impensable il y a seulement 6 mois. Tout ça aurait été un véritable tollé. D'ailleurs, ça continue à faire des tollés au niveau de ce qui reste de politiquement correct. Encore que les gens font quand même attention parce qu'ils se rendent compte que l'opinion française a complètement basculé et que d'une certaine manière, la bataille des idées a été gagnée. Mais c'est un peu comme Gorbatchev qui, effectivement, tout en venant d'un système auquel il avait entièrement contribué et auquel il devait sa carrière, s'est brusquement décidé à faire des réformes et puis tout s'est écroulé de lui. C'est toujours la même chose. Vous savez, Louis XVI aussi, il a voulu faire des réformes et puis c'est à ce moment-là que la révolution a éclaté.
Ok. Que vous pensez-vous, dans le fond, de la nomination de Rachid Dati, c'est ça, Rachida Dati?
Écoutez, moi, ce qui m'agace dans cela, c'est parce que des gens, y compris de gauche, disent « Ah, que c'est merveilleux, ah, que c'est bien », tout simplement parce qu'elle est d'origine maghrébine. Ça, je suis désolé, c'est de la discrimination positive, c'est presque du racisme anti-européen. Hein, ça, il faut simplement juger. On peut le juger, je crois, et le dire comme ça, parce que c'est sans doute la vérité au vu de ses prestations comme porte-parole de Valérie Sarkozy, c'est que c'est une jeune femme avec beaucoup de talent, beaucoup d'ambition, beaucoup de culot, qui venait effectivement d'une famille très modeste, mais elle n'est pas toute seule, il y a beaucoup de gens qui ont fait carrière en venant de familles très modestes, et qui a réussi, donc, qui a été récompensée, on peut dire, en ayant un ministère particulièrement prestigieux, celui de la justice. Là encore, on verra quelles sont les décisions ou les actions qu'elle prendra, actions qui seront d'ailleurs très certainement entièrement pilotées par la voix de son maître, c'est-à-dire par Sarkozy lui-même. Mais cela étant, c'est très bien si ça peut être un exemple, mais nous avons eu quand même d'autres exemples dans le passé. Hein, quand on parle des minorités visibles, il ne faut pas oublier, on dit comme si on était un pays, vous savez, un pays raciste et que si c'était vraiment une nouveauté. Enfin, que je sache quand même, pendant longtemps, le président du Sénat était Gaston Monnerville, qui était un Guyanais noir, et... ça n'a rien de nouveau. Nous avons eu des ministres comme Oufouette Boigny, qui était pendant longtemps ministre de la République, et autres. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, et ce que je trouve agaçant, c'est cette espèce de discrimination positive de la part des socialistes qui s'extasient en disant « Ah, c'est la seule bonne mesure de Sarkozy, il a nommé quelqu'un de l'immigration au ministère de la Justice, ça c'est merveilleux. » Non, j'ose croire qu'il a nommé quelqu'un qui était compétent, c'est tout. Et pas forcément qui venait de l'immigration, qui venait du Poitou, qui venait de la Charente ou qui venait de la Guyane.
Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, M. Pince, vous aimeriez croire enfin que c'est quelqu'un de compétent.
Ben, nous verrons, nous verrons. Elle a été très compétente, certainement comme débatteur, comme porte-parole du candidat. Bon, le ministère de la Justice, même si elle est une ancienne magistrate, c'est un ministère extrêmement compliqué, extrêmement secret, très difficile. Ben, on va voir ce qui va se passer.
Le PS...
Et je pense entre nous, je pense entre parenthèses,
oui, oui,
qu'elle aura très peu d'autonomie et qu'au fond c'est Nicolas Sarkozy qui gouvernera, qui sera aussi le ministre de la justice. Vous savez, dans le système tel que ça s'annonce, on a l'impression qu'il sera ministre de tout. Hein. Donc, à la limite, voyez, aujourd'hui, il était dans un hôpital. Bon, hier il était ailleurs, il va partout, il va à gauche, il va à droite. Bon, ça c'est remarquable au point de vue stratégie électorale. On est toujours en campagne électorale. Qu'est-ce qui va se passer quand on va passer aux actes, ça c'est autre chose évidemment.
Monsieur Pince, le PS, le Parti Socialiste, les rumeurs ne cessent à l'endroit de ce parti qui serait en train de s'écrouler littéralement comme un château de cartes. Est-ce que vous avez eu vent de cela?
Oui, moi, vous savez, je suis très prudent dans ce domaine, et je crois que Claude Reichmann vous disait un peu la même chose.
Et
avant-hier, comme je vous disais, en 93 aussi, en disant, oh là là, c'est la catastrophe, c'est fini, etc.
C'est ça.
Et puis, en 97, le même Parti Socialiste remportait les élections générales. Hein, donc, le Parti Socialiste est en crise, il a sur le papier, effectivement, en matière d'arithmétique, il a un problème. C'est que, bon, son score électoral ou ce qu'on annonce pour lui est tout à fait normal, hein. Il est toujours entre 25-29% de l'électorat. Le problème, c'est que sur sa gauche, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le Parti communiste est en train de disparaître, n'est plus qu'à 2%. Les Verts se sont complètement ridiculisés avec la candidature de Voynet. Ils ne représentent plus qu'à 1,5%. L'extrême gauche, est opposée aux socialistes. Donc, ils n'ont aucune réserve. Ils n'ont aucun allié. Aucun allié. C'est pourquoi beaucoup disent qu'il faudrait qu'ils aillent maintenant vers le centre. Hein, qu'ils s'allient avec Bayrou pour former une sorte de grand parti démocrate afin d'avoir des chances un jour de regagner la majorité. Bon, ça c'est une opinion. Moi, je serai socialiste. J'attendrai pour voir. Hein. J'attendrai de voir que tout ça se décante avant de changer complètement de stratégie. Parce que si le Parti Socialiste, par exemple, s'associait durablement sur des accords de gouvernement avec le centre, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, cela ferait réapparaître un parti communiste ou une extrême gauche extrêmement importante. Hein, donc tout cela mérite examen. Je crois que pour le moment, ils ont reçu un choc très important.
Oui. Bon,
mais ça peut changer très vite.
Parce que 22 députés centristes se sont ralliés à Nicolas Sarkozy. C'est un coup de poing sur la gueule de Bayrou, non?
Oui, vous savez, les électeurs du centre sont souvent des électeurs étaient jusqu'à présent, disons, surtout des électeurs de droite. Enfin, c'était le centre, c'était le parti de Giscard d'Estaing et de Barre. Faut pas l'oublier.
Okay.
Ce sont quand même pas des gens de gauche. Enfin, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est vrai.
Alors c'est vrai que Bayrou a bénéficié, ce qui explique son score, de beaucoup de gens qui jusqu'à présent votaient socialistes et qui, face aux hallucinations de Ségolène Royal, ont dit non, vraiment, c'est pas possible, il vaut mieux qu'on vote Bayrou et peut-être que ce sera le vote utile pour faire barrage à Sarkozy. Bon, mais tout cela va revenir dans la ligne des choses naturelles, si je puis dire. Déjà, les sondages pour les législatives n'accordent que 9% à peu près à Bayrou. C'est-à-dire quelque chose qui va revenir très proche au fond du centre historique, encore que ce centre historique a connu évidemment des pointes au temps de Giscard ou au temps de Bérou, etc. Donc au temps de Barre, etc. Donc là non plus, je m'attends pas à des changements extraordinaires. Le vrai problème qui se pose pour l'UMP aussi, parce qu'on peut dire le Parti socialiste n'a pas de réserve, mais l'UMP non plus n'a pas de réserve. L'UMP va avoir une masse de députés, 350, 400 députés qui vont former une sorte d'immense marais tirant à Huy et à Dia. Et finalement, s'il y a des déçus, ces déçus, soit ils iront du côté dans le camp socialiste, soit ils retourneront dans le camp de Le Pen, où là, ils sont perdus, parce que vu l'état du Front National, il n'y a rien à espérer dans cette direction. Et à mon avis, il serait souhaitable qu'il y ait une formation politique à la droite de l'UMP et qui soit de nature à reprendre les déçus, à soutenir les réformes lorsqu'elles sont bonnes et à demander toujours à aller plus loin pour éviter de se retrouver comme dans la situation de Gorbatchev. Au fond, il faudrait un parti correspondant à celui d'Eltsine par rapport à Gorbatchev.
Je suis 100% d'accord avec vous, M. Piens. On me rajoute un petit détail de plus de la part de cet auditeur nommé Jeffrey qui est de Paris. Et il mentionne, c'est justement en parlant de Giscard que ce qui est étrange, c'est que pendant la campagne, il a soutenu Sarkozy,
oui,
et non Bayrou.
Oui, c'est logique, parce que qu'est-ce que vous voulez, Giscard est un homme de droite, enfin c'est pas un homme de gauche, il ne pouvait pas se résoudre à l'idée de tenir à équidistance les socialistes, surtout sous leur forme assez dure, celle de Ségolène Royal, et l'UMP. En plus, il faut bien voir qu'une grande partie des centristes, qui faisait partie des troupes de Giscard d'Estaing, ont déjà rejoint l'UMP. L'UMP a été décomposé en plusieurs reprises. Il y avait une partie de l'UDF qui a rejoint l'UMP avec, par exemple, le maire de Marseille, Gaudin, avec Douste Blasi, etc. Il y avait une UDF qui restait indépendante, mais qui était quand même associée au gouvernement par le biais de Gilles de Robien. Et c'est cette UDF que Bayrou a scindée, en quelque sorte, en deux, avec son positionnement électoral, ce qui a conduit les 22 députés dont vous parliez à rejoindre donc la majorité présidentielle et l'UMP, et puis d'autres, il n'y en a que 4, je crois, qui restent avec Bayrou pour essayer de capitaliser le score qu'il a fait au premier tour. Mais ça paraît, de l'avis de tous les observateurs, ça paraît une entreprise très périlleuse pour lui. Très périlleuse. Il n'est même pas sûr, vous savez, qu'il soit réélu.
Oh. Les chansons minces. Super résistant qui est intervenant ici, qui nous parle en direct du Libertivox, disait comme, enfin, je trouvais qu'il était très dur à l'endroit de Sarkozy pour ça, que dans les prochains 6 mois, s'il ne se passe rien, s'il ne réussit pas à mettre à terme facilement au moins 10 projets qu'il a parlé dans la course aux élections, que ça sera probablement sa tête qu'on va couper, façon de parler, bien sûr.
Ça, c'est le risque que j'évoquais. Dans la mesure où il se met en première ligne, et dans la mesure s'il ne se passe rien, soit de son propre fait, soit parce qu'il est bloqué, il sera jugé comme responsable. Et ça, c'est un peu ce qui arrive dans ce genre de choses, hein. C'est ce qui est arrivé. Et ça peut susciter, effectivement, des mouvements de colère extrêmement, extrêmement importants, ou des mouvements de rejet, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. C'est un peu exactement comme ce qui s'est passé pour Gorbatchev. Gorbatchev, il a été d'abord soutenu par Eltsine, et puis quand Gorbatchev a voulu faire revivre le Parti communiste, eh bien Eltsine lui a dit non, c'est interdit, c'est fini, et il a été remplacé par Eltsine d'ailleurs. Donc effectivement, Sarkozy peut connaître le même sort. Bon, est-ce que ça se passera d'ici 6 mois? Ça peut aller très vite. L'état de grâce de Chirac, il a duré 5 mois, pas plus. Alors là, dans les mesures que va prendre Sarkozy, il y en a une qui est assez positive, peut-être, et là, qui ne se heurterait pas, à mon avis, à des difficultés constitutionnelles ou de dernier moment, c'est l'abolition des droits de succession. Ça, c'est quelque chose d'important. Si cette mesure est réellement prise, et elle est programmée normalement pour être passée à l'Assemblée nationale pendant les sessions extraordinaires cet été, c'est une mesure qui va le conforter, parce que ce sera très populaire auprès des classes moyennes.
Monsieur Pince, est-ce qu'on peut se reparler la semaine prochaine? Êtes-vous disponible?
La semaine prochaine, je ne serai pas disponible.
D'accord.
Je pars le 29 mai.
Parfait.
Je repars en Italie. Alors,
je vous envoie un courrier.
Vous envoyez un email.
Voilà.
En vous disant, ça y est, je suis là. En principe, je vous le dis tout de suite, en juillet, août, je ne bouge pas.
Oh, hein? D'accord.
C'est-à-dire que vous avez au moment où tout le monde part en vacances,
oui.
Ben moi je reste.
C'est bon. Monsieur Pince, c'est un plaisir de discuter avec vous et à la prochaine fois, c'est aussi simple que ça.
Entendu.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt, Monsieur
Pince.
Au revoir. Alors, c'était Gérard Pince que vous avez entendu. Nous, on prend une petite pause. On revient tout de suite après ceci. On bat des derrière jusqu'à midi précisément. Oui, oui, faites-nous confiance. On s'arrête un instant.
Hi, this is Ozzy Osbourne.
Hello, this is Naomi from Black Sabbath.
I'm Joe Perry. This is Steven Tyler from Aerosmith.
Hey, this is Red Rocker, Sammy Hagar.
Rock. Rocking.com.